Vous êtes au cœur de la nuit 8FM. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
La crise sanitaire a impacté beaucoup d'aspects de notre vie, et notamment notre vie amoureuse. En Chine, les divorces ont explosé au sortir du confinement. Pour parler de ça, mais pas que, on a interviewé Alexandre Cormon, qui est Love Coach.
Alors, le premier confinement, il a été très difficile pour les couples, pour deux raisons principales. Le premier, c'est que c'était très inattendu. C'est une situation qu'on ne connaissait pas, un imprévu. Donc, c'est quelque chose, quand on ne connaît pas, donc il faut s'adapter. Et les couples ont eu du mal à s'adapter à ce moment, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc là, c'est la deuxième raison. En général, on est toujours très entouré socialement, on va au travail, on a plein d'activités personnelles. Le confinement signifiait être ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les enfants. Donc c'est une situation, et on n'est pas en vacances, on n'est pas à l'autre bout du monde, sur une plage avec le sable. Là, on est à la maison, dans nos habitudes, ça devient très vite ennuyant. Donc il faut casser la routine. Et c'est pour ça que le couple a été si... beaucoup de couples, en fait, finalement, en ont pâti à cause du confinement, parce qu'ils ont eu du mal à se réinventer et parce qu'ils se sont retrouvés 24 heures sur 24 l'un sur l'autre et qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Le deuxième confinement, il est aussi difficile parce que c'est un coup sur le moral. On pensait en être fini avec le Covid, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, il y a plusieurs points qui sont essentiels. Le premier point, effectivement, c'est de se créer de nouvelles habitudes. Donc, un de mes conseils, par exemple, c'est de dire à des personnes, aux personnes que j'accompagne, que je coach, de pouvoir se réveiller chaque matin plus tôt que d'habitude et d'avoir une petite routine pour soi. Yoga, méditation, un peu de sport à la maison, de trouver un moment pour soi, prendre soin de soi. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut essayer de créer des moments de couple, donc partager du temps à deux. Et donc, il faut avoir cet espace personnel et cet espace de couple. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir surmonter ce confinement. Si on est en télétravail, si on est à la maison, s'il y a les enfants, si ça devient compliqué, il faut absolument nourrir ces deux mondes, son monde personnel, son monde de couple.
Donc on l'a compris, que ce soit en période de confinement ou même dans la vie de tous les jours, il est très important d'avoir du temps pour soi dans un couple pour ne pas craquer. Mais pourquoi est-ce d'autant plus important de se l'accorder le matin, ce temps ?
Pourquoi ? Parce que le matin, c'est là où on se met en énergie. C'est un peu le moment qui va déterminer notre morale toute la journée. Donc si on prend du temps pour soi, qu'on médite, qu'on lit un bouquin, qu'on fait du sport, à ce moment-là, déjà, on est dans une nouvelle énergie. Après, il faut faire exactement comme si on allait au travail. Donc on va prendre une bonne douche, on va prendre soin de soi, on va s'habiller, on va surtout pas se laisser aller. Et l'exercice le plus compliqué, c'est d'essayer d'être le plus distant possible en étant dans le même endroit tous les deux. C'est-à-dire d'avoir vraiment un moment où on est centré sur soi et après on se retrouve juste pour, par exemple, manger le midi ensemble ou avoir un moment le soir ensemble. Mais il faut réussir à garder son indépendance pendant cette phase de confinement. Après, ce qui est important aussi, ce que je demande à tous les couples, c'est de faire une liste de 10 activités à faire à la maison. Par exemple, ils peuvent apprendre à cuisiner ensemble, ils peuvent faire un karaoké ensemble, ils peuvent faire un massage un peu plus dans une activité un peu plus sexo. Donc l'idée, c'est d'avoir 10 activités en tête pour ne jamais être à court d'idées et alimenter finalement cette notion de on a besoin d'excitation, on a besoin de nouveauté, on a besoin de tester de nouvelles choses. Ce qui cartonne dans les couples en ce moment, c'est cuisiner ensemble et karaoké. Ça, c'est deux activités qui permettent donc de laisser parler son imagination et de profiter.
Alors la cuisine, bon bah oui, ça me paraît assez évident, mais alors le karaoké, ça c'est plus surprenant.
Le karaoké, et j'ai même eu une personne en coaching qui m'a dit « Alex, on s'est acheté une Nintendo Wii et on fait plein de jeux ensemble ». Donc ça peut aussi être finalement un bon moment pour se reconnecter, passer du temps en soi. Donc au niveau des activités, il faut vraiment laisser parler son imagination.
Et si jamais on revit un confinement, parce que ça a aussi été compliqué pour les célibataires, difficile de rencontrer quelqu'un dans un bar ou dans la rue avec les masques, est-ce que si jamais on revit ça, cette situation, est-ce que c'est la bonne période de se lancer sur une application de rencontre, par exemple ?
On peut, parce que la bonne nouvelle, c'est que le processus de séduction, il va durer plus longtemps. Aujourd'hui, avec les applications, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rencontres qui vont arriver très rapidement. On se rend compte, on est ensemble, et puis après on apprend à se découvrir, mais on n'est peut-être pas compatible. Là, avec le confinement, il y a plus de discussions, on cherche plus à apprendre à connaître l'autre. Donc ce sont vraiment des outils, ou plutôt des situations qui nous permettent de trouver l'amour. La contrainte, c'est, et c'est ce que je vois quand même souvent en coaching, des personnes qui me disent « Alex, c'est bon, je suis amoureux », avant même qu'on se soit rencontré. Ça crée des émotions fortes, mais derrière, c'est difficile à tenir sur la durée. Donc faites attention à ne pas vous investir dans un couple avant même de vous être rencontrés. Prenez votre temps, c'est très important.
Et on le disait en préambule, les périodes de confinement ont donc été difficiles pour les couples, mais aussi pour les célibataires à la recherche de l'amour. Mais Alexandre Cormont y a vu aussi une période d'opportunité.
Il y a du négatif, mais aussi beaucoup de positif. Dans le couple, ça veut dire passer du temps ensemble, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Se redécouvrir, recharger les batteries, redéfinir des projets. Donc ne pas hésiter à parler de l'après-confinement. Et puis pour les célibataires, c'est d'essayer d'avoir plusieurs personnes avec qui on discute et de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de pas juste se lancer parce qu'on a une émotion amoureuse, un espèce de petit papillon dans le ventre. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre et justement le confinement le permet. Donc il y a du négatif, mais il y a aussi du positif, il faut garder espoir.
Bienvenue sur 8FM. Si vous avez trouvé notre sujet précédent intéressant, restez encore, la suite est mieux.
Vous ne savez pas quoi offrir pour un anniversaire, et si vous faisiez une cagnotte en ligne, une cagnotte vertueuse en plus dont une partie ira à une association, c'est le principe de Tribi, qui s'écrit T-R-I-B-E-E. On a interviewé Cécile Flamand, la fondatrice de Tribi.
Alors Tribi est né de l'anniversaire d'école de mes deux enfants. Ils recevaient tous les ans une dizaine de copains pour leur anniversaire et avaient 3 ballons de foot, 4 BD où je savais qu'ils ne les liraient jamais. Donc je trouvais qu'il y avait énormément d'argent dépensé pour des cadeaux qui restent dans les placards. Et on trouve aussi qu'on a des enfants de plus en plus sensibilisés à l'écologie, à l'environnement, qui ont envie d'agir à leur échelle mais ne savent pas comment. Et donc on a créé une cagnotte, la cagnotte Tribi, où l'enfant peut, à la fin, avec l'argent récolté, acheter le cadeau dont il rêve et diriger une partie de la somme vers l'association qui le touche le plus.
Et comment réagit l'enfant du coup, parce qu'il n'a pas vraiment de cadeau à déballer, c'est une cagnotte. Est-ce qu'il se sent content aussi d'agir pour une association?
L'enfant est hyper heureux d'avoir le cadeau qu'il rêvait depuis longtemps et il est hyper fier d'avoir aidé une cause qui lui tient à cœur. Et il peut choisir en fonction de ce qu'il aime, la cause qui lui plaît le plus, entre sauver les animaux, sauver les océans ou aider les enfants les plus fragiles ou les plus démunis.
Mais du coup, comment ça fonctionne? On peut choisir quand même l'association que l'enfant va justement soutenir pour son anniversaire?
Alors en fait, c'est une cagnotte classique, c'est-à-dire que l'enfant, voilà, au départ, va quand même choisir son association. Et là, vous avez raison, on a sélectionné 9 assos avec des enfants pour vraiment voir ce qui leur plaisait le plus. Donc les animaux, c'est sauver les pandas, les dauphins, les chimpanzés. Pour les associations aussi, c'est tout à l'école, Lorette Fugain, etc. Il envoie l'invitation à tous ses copains et en fait, à la fin, donc il va récolter 100 ou 150 euros. Et là, il va se dire, bah, par rapport aux 150 euros, bah, qu'est-ce que je garde pour mon cadeau et qu'est-ce que je donne à l'association, en fait. C'est vraiment lui, on veut vraiment que les enfants, en fait, c'est ce qu'ils demandent, hein, de pouvoir s'engager, de pouvoir choisir et de pouvoir à la fois, en fait, avoir voilà, le cadeau et faire plaisir aux autres.
Et c'est des invitations papier que l'enfant peut glisser dans le cartable de ses copains ou c'est tout en ligne, pareil pour l'argent qu'il faudra verser pour la cagnotte?
C'est en numérique. En fait, aujourd'hui, voilà, c'est par WhatsApp, par SMS ou par mail. Enfin, après, à l'enfant et à la maman ou au papa de choisir. Mais voilà, c'est vraiment une cagnotte en ligne. Sa particularité, vraiment, c'est qu'elle est 100% gratuite et qu'il y a une partie qui est reversée à une association.
Mais du coup, vous, en tant que Tribi, vous prenez vraiment aucune commission?
Non, on voulait que 100% des dons soient reversés aux associations, donc on voulait surtout pas de commission. Donc on laisse le choix, hein, parce qu'on a bien sûr qu'on a des frais bancaires, hein, des frais de paiement et de versement, mais par contre, on laisse le choix aux utilisateurs, aussi bien aux participants qu'aux créateurs, de nous laisser un pourboire.
Le site a été lancé en septembre 2020 et la fondatrice de Tribi est revenue avec nous sur le début de l'histoire qui a été tout de suite grandiloquent.
On a très bien fonctionné en démarrage. Donc tout le mois d'octobre 2020, on a eu énormément de cagnottes, énormément de retours des enfants hyper fiers. On avait même des enfants qui avaient fait leur campagne de délégué de classe en disant qu'ils allaient faire une cagnotte Tribi avec leur classe pour donner à une asso puis avoir des gourdes à leur nom. Bon, la maîtresse a vite recalé les choses, mais en disant, on parlait pas d'argent en classe, mais donc voilà. Après, il y a eu les confinements successifs, donc ça s'est bien calmé, et là, ça reprend depuis le mois de juin. Donc là, on est ravis, on est en forte croissance, et surtout, en fait, on a un nouveau projet où on pense que la transition vers un monde meilleur s'accélérera grâce à l'action de tous, mais notamment des entreprises, en impliquant leurs clients. Donc maintenant, on propose une plateforme aux entreprises, leur propre cagnotte en ligne. Donc, qui pourront directement installer sur leur site e-commerce. Et ils pourront mettre en avant leurs propres associations et inciter les clients à dépenser la cagnotte sur le site si elles le souhaitent, bien sûr.
Mais c'est-à-dire, c'est pour les salariés de l'entreprise qui créent une cagnotte entre eux ou pour les clients des entreprises? Je comprends pas trop.
Alors, aussi bien pour leurs salariés que pour leurs clients. Là, au départ, c'est surtout pour leurs clients. Donc, ça va être une enseigne du e-commerce qui va, en fait, directement installer la cagnotte sur son site aux couleurs, à ses couleurs, avec sa charte graphique, avec tout. Et elle pourra inviter ses clients à dire, là, c'est aussi bien les adultes que les enfants, pour vos anniversaires, pour la fête des pères, la fête des mères, pour les pots de crémaillère, les pots de départ, etc. Faites une cagnotte et de la même manière, à la fin, donnez 10% à l'association. Donc là, on a choisi 10% et le reste, faites-vous un virement bancaire sur votre compte ou dépensez sur notre site e-commerce parce qu'on vous fera des réductions ou autre si vous l'avez dépensé là, en fait. Et les entreprises cherchent aujourd'hui vraiment à mettre en avant toutes les actions qu'elles font pour leur association. Et elles cherchent aussi à se démarquer en proposant des services à forte valeur ajoutée ou des services différenciants pour leurs clients et bien sûr augmenter leur chiffre d'affaires. Donc l'outil cagnotte est un service qui les intéresse aujourd'hui, en fait.
Ok, un petit mot à ajouter sur Tribi ou est-ce que vous pensez qu'on a un peu couvert toute la question ?
Non, mais voilà, vraiment, nous on s'est dit qu'on a tous envie d'agir, on ne sait jamais comment en fait, c'est pas toujours simple, on n'a pas toujours forcément le temps ou on ne prend pas le temps. Et là, on se dit que finalement, une cagnotte, ça simplifie la vie de tout le monde. Ça simplifie aussi les participants, ils savent pas toujours le cadeau qui va faire plaisir. Et donc donc fini la course du cadeau au dernier moment. Et là, du coup, et à la fin, tout le monde est heureux. Donc c'est ça qui est chouette.
Salut à vous et bienvenue sur 8FM, où je vous ai fait ma sélection d'un nouveau meilleur moment de la rédaction de 8FM. Bonne écoute.
Selon plusieurs études, essentiellement européennes et américaines, on recense à ce jour 60 à 70 cas de troubles autistiques pour 100 000 personnes, soit grosso modo un ratio d'une personne sur 150. On a interviewé Marine Isambert, qui est la fondatrice de l'application Originelle. Ça s'écrit Origine et Elle comme les ailes d'un oiseau. Alors on a déjà demandé à Marine depuis quand existait Originelle.
Alors Originelle, on l'a créée depuis un an et demi. Donc février 2020, et voilà, on l'a créé à ce moment-là.
Et est-ce que c'est lié au Covid ou pas du tout ?
Pas du tout.
C'était
déjà dans les petits papiers, et c'est vrai que par contre, on a subi, on va dire, la phase de création pendant la période de confinement. Donc ça nous a pas empêché de rien, mais en tous les cas, effectivement, ça n'a rien à voir.
Alors donc, comme vous me disiez, c'est une entreprise, c'est pas une association. Pourquoi avoir voulu monter cette entreprise ? Il manquait ça pour la prise en charge des enfants autistes ?
Alors oui, moi j'ai un parcours en tant qu'éducatrice spécialisée dans l'autisme de plus de 10 ans, donc j'ai pu travailler dans le milieu associatif, dans les différentes institutions, et puis également au domicile des parents. Et c'est vraiment, en tous les cas, voilà, c'est face à tout ce constat que j'ai pu faire pendant plusieurs années que j'ai vu le manque qui existait en France. Dans la prise en charge, dans l'accompagnement des familles avec autisme, qui ont un enfant avec autisme, et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de créer pour apporter une solution à toutes ces familles et à ces professionnels.
Parce que c'est quoi qui manque en fait exactement ?
Alors en France, il y a des prises en charge qui sont effectivement effectuées donc dans le milieu associatif ou dans le milieu institutionnel, mais c'est des prises en charge qui ne sont pas forcément toujours de bonne qualité, puisque c'est des ratios. On parle d'un éducateur pour 4-5 enfants. En général, et on sait aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé recommande bien qu'une prise en charge efficace, doit se faire avec un accompagnateur pour un enfant. Donc, il y avait déjà cette problématique-là. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont décidé de se diriger vers des professionnels en libéral pour qu'ils puissent intervenir à domicile et du coup, vraiment faire une prise en charge de qualité sur mesure. Le souci, c'est que les familles avaient du mal à trouver ces intervenants libéraux puisqu'en fait, tout simplement, ils n'étaient pas référencés ou très mal référencés. Et du coup, voilà, l'originelle, la première idée, c'était ça, de proposer un service qui permettrait d'accompagner les familles pour trouver l'intervenant qui correspondra aux besoins de leurs enfants.
Oui, parce que du coup, qu'est-ce que propose exactement, du coup, Originelle ? Dites-moi en plus.
Alors du coup, il y a ce service de mise en relation qu'on propose. Donc on référence de notre côté les différents professionnels, aussi bien les éducateurs, les psychomotriciens, les orthophonistes, les psychologues. Et de l'autre, on a la famille qui va nous faire part de son besoin en termes de volume horaire, taux horaire, l'approche ou la méthode qu'il souhaite pour son enfant. Et donc là, on va proposer ce premier service de mise en relation. On propose aussi des ateliers de formation qui sont sous format digital, donc qui sont accessibles en ligne. Donc là, c'était pour répondre à la problématique des parents ou des professionnels qui ont des emplois du temps très, très, très chargés et qui n'ont pas forcément la possibilité de dégager du temps pour assister à ces formations.
Est-ce que c'est des formations pour les parents ou pour les professionnels, ça, du coup ?
Pour les deux, il y a les pour les professionnels qui voudraient monter en compétences et pour les parents qui voudraient comprendre un peu mieux, on va dire, les enjeux de la prise en charge, puisque c'est pas parce qu'on est parent d'un enfant avec autisme qu'on est forcément tout de suite armé pour pouvoir s'en occuper au mieux. Donc c'est vraiment destiné aux deux. Ensuite, on a également des ateliers de sensibilisation qu'on propose au sein des écoles, des structures périscolaires, donc des crèches, des centres de loisirs. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir proposer déjà un premier niveau de sensibilisation à tous ces accompagnants qui ne sont pas du tout formés à l'autisme ni à la prise en charge. Voilà, donc ça, c'était une volonté de notre part aussi. Et enfin, et surtout là, ce qui vient juste de naître chez Originel, c'est une application mobile, web et mobile, qui, elle, permet de centraliser toutes les informations de la prise en charge. Alors, quand je dis enfants, ça peut être aussi bien des adultes ou des ados. Hein, en général, c'est les enfants de leurs parents, donc j'ai tendance à dire enfants. Donc, ils vont centraliser au même endroit tous les documents, les bilans, les comptes rendus, les photos, enfin voilà. Et puis, de faciliter le lien de coordination entre les différents professionnels, puisque souvent, dans une prise en charge, il peut y avoir jusqu'à 4 à 5 professionnels différents. Donc, comme je l'ai dit, une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue, un éducateur, et tout ça, c'est du temps en plus sur lequel les parents doivent s'en occuper. Forcément, c'est eux qui font. Donc, ils n'ont pas forcément non plus cette casquette ni de manager ni de gestionnaire. Et du coup, on a vraiment pensé cette application comme un assistant, un outil de poche qui les accompagnerait dans leur quotidien.
J'ai vu aussi sur le site qu'il y avait des tutos et des podcasts.
Oui, alors ça, c'était l'idée de pouvoir proposer aussi du contenu complètement gratuit, toujours dans l'accompagnement des professionnels et des familles. Donc, ça nous tenait à cœur de pouvoir proposer ce premier niveau d'information. Donc, par le biais de tutos vidéo que j'ai pu faire moi avec certains enfants que j'ai pu prendre en charge. Et une série de podcasts, effectivement, où la volonté, c'était de dresser dans la première saison des portraits de familles. Et dans la deuxième saison, cette fois, c'est des portraits de tous les accompagnateurs et tous les aidants qui existent.
Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, peut-être expliquer que l'application, elle peut se télécharger directement via notre site internet, originel.fr. Et sinon, je pense que c'est bon.
Je vous redonne une dernière fois le nom de l'entreprise, Originel, qui s'écrit donc avec les ailes d'un oiseau.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8FM.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était,
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens qu'il faut protéger, on a interviewé Karine Grèce, fondatrice du Clos des Renardises, qui se situe en Aquitaine. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de protection pour les renards.
Alors, le Clos des Renardises, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2020, mais qui est pensée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, au départ, je suis assistante vétérinaire de formation et d'expérience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en Belgique en tant qu'assistante véto. Et je suis arrivée en France parce que j'ai rencontré mon compagnon et j'ai bifurqué un petit peu de faune, on va dire, et plutôt que la faune domestique, je me suis intéressée à la faune sauvage parce que j'avais déjà une petite arrière-pensée et je m'en occupais déjà un peu en Belgique. Et j'ai un animal un peu totem, on va dire, qui est le renard roux. Et donc, j'ai fait de l'éco-volontariat en centre de soins où j'ai plus spécifiquement orienté mon attrait sur les renards roux qu'on accueillait au centre. Donc, centre de soins pour la faune sauvage. Et du coup, j'ai mûri l'idée, comme en France, j'ai constaté que le renard était un animal qui était pourchassé, mais qui bénéficiait d'un double statut qu'on ne connaît pas forcément en Belgique. Bon, il peut être un peu nuisible, mais il est plutôt gibier, mais on s'acharne pas autant. Donc en France, on s'acharne quand même dessus, il est déjà gibier, et en plus on le considère comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Je trouve que ça ne veut rien dire déjà en termes de biodiversité. Et en plus, il n'y a pas d'argumentaire pour réel. C'est basé sur des croyances, sur des traditions et sur absolument aucun argument scientifique. Donc j'ai voulu aider ce petit animal au nom de tous les autres aussi qui sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus particulièrement chez les petits carnivores autochtones. Et du coup, j'ai créé cette association d'abord pour favoriser l'étude, enfin pour s'intéresser à l'étude, le partage des connaissances et la préservation de cette espèce. Donc pour bien juger d'une espèce ou quelle qu'elle soit, il faut quand même la connaître parce qu'on ne peut pas baser une connaissance sur des croyances, sur des constats. Oui, le fameux pilleur de poulailler. Bon, ça fait des générations et des générations, des siècles que cette étiquette poursuit cet animal, ce pauvre animal. Mais je pense que maintenant, l'évolution doit aller dans tous les sens et surtout aussi en faveur de la nature. Et comme actuellement, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau des mentalités. Donc avec les restrictions au niveau des animaux dans les cirques, au niveau des zoos, on fait plus attention au bien-être animal. En animalerie, maintenant, ça évolue dans le sens où on considère enfin l'animal comme être sensible. Bon, l'animal sauvage reste encore une catégorie, on va dire, qui est encore un peu pauvrette, dans le sens où c'est un animal. Bon, les animaux sauvages, ils sont tenus à l'écart, forcément, on les voit pas tous les jours, et ça reste res nullius, qui n'appartient, donc ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent à personne et qui sont appropriables par n'importe qui et qui peuvent être susceptibles d'être torturés. Donc ça laisse un petit peu carte blanche aux gens en sachant que s'ils torturent ces animaux ou s'ils les chassent, voilà, c'est de la faune sauvage et ils ne sont pas dans la loi protégés au sens strict comme le sont maintenant les animaux domestiques et les animaux familiers. Donc j'ai développé l'idée de faire connaître ces animaux-là, donc le renard principalement, pour le remettre à sa juste place bioécologique et pas qu'on continue à le considérer comme le pilleur de poulailler, celui qui véhicule la rage et d'autres maladies, le pouilleux, la sale bête, enfin bon, pour essayer de faire évoluer les mentalités, mais pour apprendre à pour protéger, il faut comprendre l'animal et pour le comprendre, il faut le connaître. Donc c'est un peu notre but. Et parallèlement à ce côté plus théorique, pédagogique mais plus théorique, j'ai eu l'idée de créer un refuge. Il en existe déjà un petit refuge dans le nord de la France, un refuge pour renards qui sont contraints à la captivité définitive. Donc, on n'est pas un centre de soins, on n'est pas un parc animalier, mais on recueille des animaux qui seraient incapables de survivre à l'état sauvage, donc qui auraient perdu cette autonomie qui est indispensable à leur survie à l'état sauvage. Donc, ils proviendraient essentiellement de centres de soins. Bon, à l'échelle d'un centre en France, c'est pas très significatif. Il y en a pas, on va pas en avoir des tas, mais au niveau de plusieurs centres, et notamment de la DDT, de la police de l'environnement, qui eux pratiquent des saisies chez des gens qui détiennent des animaux illégalement, parce qu'il faut beaucoup de certificats d'autorisation. C'est très encadré de détenir un animal sauvage, et donc il y a des animaux qui sont imprégnés et d'autres qui sont handicapés. Donc ça dépend. Donc, centre de soins faune sauvage, on aurait des animaux qui auraient perdu leur aptitude par un handicap, des séquelles en fait, en quelque sorte. Bon, on a une éthique, hein, on a étudié une éthique très profondément bien ancré sur le bien-être de l'animal. Donc, on n'est pas là pour garder des animaux grabataires. On est là pour donner une deuxième chance à des animaux qui ont choisi de vivre, qui ont toutes les capacités, on va dire, de bien vivre, mais qui, malheureusement, ont un petit handicap, soit moteur, soit neurologique, qui les empêche d'être à 100% dans la nature et donc de recouvrer leur vie sauvage. D'autre part, en ce qui concerne les saisies, ce seront des animaux qui seront tellement imprégnés qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou même s'ils pouvaient un peu se débrouiller, ils seraient trop enclins à retourner vers l'être humain. Et donc là, ce serait de toute façon le condamner à terme à être abattu ou à être jugé, etc.
Et qu'on le précise, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public, hein.
C'est un havre de paix, c'est un sanctuaire pour des animaux qui récupèrent un peu. Et ce sont des animaux essentiellement qui ont des séquelles d'activité humaine, hein. Ce sont parce que les animaux qui meurent de leur propre mort naturelle, donc de maladie ou de vieillesse, s'ils meurent de vieillesse en milieu naturel, ce qui est très rare, on ne les retrouve pas, ceux-là. Ils vont mourir au milieu des bois. Nous, ce qu'on va récupérer, ce sont des animaux qui auront été recueillis par des gens qui les auront conduits en centre de soins à la faune sauvage, et des animaux qui auront été saisis, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne fait pas d'élevage non plus. Ces animaux vont être stérilisés, identifiés, parce que ça relève d'un protocole très strict au niveau législatif. Et ils seront déparasités, donc vermifugés, ils seront vaccinés, donc et on ne fait pas de reproduction du tout. Il n'est pas du tout question de relâcher des animaux dans la nature ni d'en faire un élevage. C'est pas le but du tout. C'est vraiment d'offrir une seconde vie et par là sensibiliser le public, déjà pour connaître l'espèce, pour qu'elle se rende compte que un renard, ça n'a pas la taille d'un loup, que c'est pas non plus le vecteur de la rage, parce que la rage est éradiquée en France, la rage vulpine est éradiquée depuis 2001 officiellement, que ce n'est pas le monstre dont on en fait parfois l'écho, mais c'est un animal qui est très utile aussi et pour la biodiversité, mais aussi pour les services systémiques qu'il rend aux agriculteurs bio ou pas bio d'ailleurs, parce que il se nourrit à 75% de petits rongeurs qui eux sont des déprédateurs de culture par exemple, et ils empêchent la prolifération. Alors on explique aussi que les petits prédateurs comme le renard ne pullulent pas, parce que un prédateur se reproduit en fonction des ressources alimentaires de son milieu. Donc quand il n'y a pas assez de nourriture, il y a des années où la renarde, soit elle ne va pas être gestante, soit elle aura très peu de petits, et soit les petits vont même pas survivre. Et donc ce sont des espèces, les petits carnivores, les petits prédateurs, qui se régulent tout à fait naturellement.
Je vous rappelle le nom de l'association, le Clos des Renardises, situé en Aquitaine.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
Qui n'a pas de petites pièces oranges qui traînent au fond de son sac ou de sa poche de manteau, de l'argent qui dort, en somme, du pouvoir d'achat perdu pour l'entreprise Coinstar, l'un des leaders dans le monde de transformation de pièces en bons d'achat dans les grandes surfaces alimentaires. On a interviewé le directeur général France, Patrick Debecq, au moment où l'entreprise avait fait un partenariat avec les pièces jaunes.
Alors, Konstar, c'est le leader mondial de la transformation de pièces en bons d'achat dans les grandes surfaces alimentaires. L'idée, c'est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années aux États-Unis, c'est que dans la plupart des foyers, il y a de l'argent qui dort sous forme de pièces. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un vide-poche, par exemple.
D'accord, ouais.
Et la valeur cumulée de cet argent qui dort dans un pays comme la France, c'est plus de 500 millions d'euros.
Ah oui.
Et aux États-Unis, et Konstar, ils sont dans une dizaine de pays, mais principalement aux États-Unis et au Canada, ils comptent 3 milliards de dollars par an.
Ah oui.
Donc, on parle d'une masse monétaire vraiment importante, qui est un pouvoir d'achat oublié. Et l'idée de Konstar, c'est de simplifier pour les particuliers le processus pour se débarrasser de cet argent qui dort et de redonner du pouvoir d'achat aux gens qui ont envie de se débarrasser de ces pièces. Oui. Voilà l'idée de base, si vous voulez. C'est que comment réinjecter dans l'économie l'argent qui dort et le faire de la façon la plus simple possible. Pourquoi est-ce que Konstar existe? C'est aussi parce que les banques refusent de prendre ces grosses quantités de pièces ou c'est pas simple. Elles vous demandent de le mettre en rouleau, certaines agences le refusent. Enfin, il n'y a pas de circuit simple pour se débarrasser de ces pièces. Si vous essayez de payer votre boulangère ou même votre supermarché avec un kilo de pièces, ils vont vous regarder de travers, vous avez bloqué la caisse pendant 10 minutes. Enfin, c'est une expérience qui est pas très agréable. Donc finalement, l'idée de Konstar est partie de là. C'est comment aider les particuliers à se débarrasser simplement de cet argent qui dort chez eux.
D'accord. Donc même les petites pièces oranges, qui restent au fond de la poche, voilà quoi.
Bah c'est principalement celle. Alors, on compte toutes les pièces, hein, jusqu'à 2 euros, mais les trois quarts des pièces qu'on compte, 77% pour être précis, c'est du 1, 2 et 5 centimes. C'est vraiment cet argent-là qui dort. Et alors pourquoi principalement cet argent-là dort? Il y a une stat qui est vraie au niveau européen, c'est que 60% des pièces ne sont utilisées qu'une seule fois. Et c'est encore plus vrai pour les petites pièces. La Banque de France doit frapper 10 pièces de 1 centime pour qu'il y en ait une qui revienne dans le circuit. Alors que ce ratio est de 1 pour 1 pour les pièces de 1 euro.
D'accord, ok. Donc du coup, voilà, on met nos pièces et on a un bon d'achat, mais pas pour un produit particulier, c'est pour le magasin.
Non. Ouais. Pour l'ensemble du magasin, ce bon d'achat est valable 30 jours et il n'est valable que dans le magasin où vous avez qui a imprimé le bon, évidemment.
Oui, bien sûr. Et donc, du coup, là, vous vous joignez aux pièces jaunes. Alors, comment ça se passe?
Alors, l'idée, c'était vraiment assez naturel qu'on se rapproche des pièces jaunes, donc les pièces jaunes se rapprochent de nous. Puisque nous, en France, on a un parc de 1000 bornes maintenant. Et on s'est dit, il faudrait vraiment qu'on modernise l'expérience de don en pièces pour pièces jaunes. Avant que ce partenariat existe, finalement, vous aviez votre tirelire, vous alliez à la poste. À la poste, on vous prend votre tirelire, on vous dit pas combien vous avez donné. Si vous n'avez pas compté vos pièces avant, vous savez pas. On ne matérialise pas votre don, on vous donne pas un reçu à la poste, on vous dit merci et vous partez, mais il n'y a rien qui va matérialiser votre don. Donc vous ne savez pas combien vous avez donné, vous n'avez pas de reçu par rapport à votre don. Et enfin, quelque part, vous ne savez pas non plus si vous avez beaucoup donné par rapport à d'autres, si vous êtes dans une ville qui donne beaucoup, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on a proposé à Pièce Jaune, c'est d'utiliser les bornes de nos clients, Carrefour, Auchan, le Casino, Leclerc, toutes les enseignes, et finalement, de régler ces deux questions. C'est-à-dire que quand un enfant vient avec sa tirelire et qu'il la verse dans la borne, immédiatement, il sait au centime près combien il a donné. Donc ça, c'est déjà nouveau par rapport à l'organisation d'avant. Ensuite, la borne va émettre un ticket qui va dire « Merci pour le don que vous avez donné tant ». Et pour tous les dons supérieurs à 5 euros, ce ticket, il sert à demander un justificatif fiscal. Donc si vous faites un gros don, vous pouvez même utiliser le reçu de la machine pour défiscaliser votre don, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'est les deux gros avantages pour le particulier. Pour l'association Pièces Jaunes, le processus de collecte et de récupération des pièces était très long. Généralement, ils récupéraient les pièces 6 mois plus tard, et surtout, le comptage était estimé, ils le faisaient au poids. Donc ils ne savaient pas exactement combien ils collectaient, de façon précise, et ça prenait pas mal de temps. Avec nous, ils savent en temps réel combien ils collectent dans nos bornes, et nous, le processus de récupération de l'argent est beaucoup plus court, et du coup, ils peuvent avoir l'argent collecté sur leur compte quasiment un mois après la fin de la collecte. C'est à la fois un avantage pour l'association, c'est plus précis, c'est plus rapide, c'est plus simple. Et en même temps, ça réinvente, ça réenchante, si vous voulez, l'expérience du don. Et ça crée même de la viralité. On avait installé une borne à Orléans, je me souviens, pour le lancement de pièces jaunes. Et il y a toute une équipe de foot, des enfants qui devaient avoir des ados de 13 ans. Ils sont chacun venus, ils étaient 11, ils sont chacun venus avec leur tirelire. Ils ont versé dans la borne toute leur tirelire pour faire un gros ticket. Ils ont fait 120 €. Ils étaient hyper contents, c'était le plus gros ticket de la journée. Et du coup, ils se sont pris en photo devant la borne avec le ticket, ainsi de suite. Voilà, donc, quelque part, vous réinventez un peu la façon de donner. Et ça s'insère pas mal, en plus, dans une communication réseau social.
Par rapport à pièces jaunes, donc du coup, vous me dites que l'an dernier, vous l'aviez déjà fait, c'est ça?
Alors, nous, on l'a fait de façon progressive. On a démarré il y a 2 ans, en 2020, avec pièces jaunes. C'était juste avant le Covid.
Ouais.
Et on avait fait un pilote, c'est-à-dire qu'on avait mis que 25 bornes pour voir si vraiment ça changeait les choses ou pas.
D'accord.
Et ça avait bien marché. Du coup, l'année suivante, on était venu avec une centaine de bornes. Sauf que l'année suivante, c'était le Covid. Et du coup, Brigitte Macron avait dit, on fera pas de collecte métallique cette année. Donc c'était pas vraiment une année représentative.
Mm.
Donc la vraie année où on déploie finalement le dispositif des bornes, c'est cette année, on en a 400.
D'accord, mais du coup, elles sont identifiables dans le magasin. Il y a marqué quelque chose qu'on sache.
Non. En fait, les bornes, elles sont habillées.
D'accord.
On a envoyé à tous les magasins partenaires un habillage magnétique qui se pose. C'est un aimant en fait, et qui recouvre la borne. Donc la borne est toute jaune.
D'accord.
Et en plus, sur la borne, on a un écran qui lui aussi est marqué en gros pièce jaune. Donc pendant les 3 semaines de la collecte, notre borne, elle devient très pièce jaune.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM.
I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I'm in that medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Let me work it out. Oh, yeah, yeah. Let little mama work you out. Hold on. You wanna work it out? Work it out. It's only gonna get worse. I'm in my medication. Just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Let me work it out. Let me work you out. Let me. You wanna work it out? It's only gonna get worse. I'm in that medication. Just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Let me work it out.
Vous êtes sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Comment faire pour mieux insérer les personnes handicapées au quotidien? Pas facile quand on ne connaît pas soi-même le problème. Lalise Etoun est maman d'un jeune adulte handicapé. C'est grâce à lui qu'elle a eu l'idée de Fraternitim, une colocation inclusive.
Donc du coup, comment je vous présente par rapport à Fraternitim? C'est quoi votre rôle?
Moi, mon rôle, je suis fondatrice, cofondatrice de l'association Fraternitim, puisque c'est une association qu'on a créée en famille, en fait, autour de Jérémy. Jérémy, c'est mon fils.
Oui.
Et on a créé ça avec Frédéric, mon mari, et Lucie, ma fille.
Bon, c'est une association familiale, donc, du coup.
Ouais, c'est une association familiale parce que, au départ, vous savez un peu de quoi il en est, là, ou je refais toute l'histoire?
Non, le but, c'est justement que vous me parliez un petit peu de l'association, comment elle est née et en quoi ça consiste. Donc, je vous écoute.
Alors écoutez, donc tout a commencé par un besoin, puisque Jérémy, qui a 25 ans, est en situation de handicap. Depuis qu'il a 7 ans, il a été diagnostiqué, il vit avec une maladie qui s'appelle une ataxie de Friedreich, qui est une maladie génétique évolutive, et donc depuis l'âge de 14 ans, il est en fauteuil roulant et il a perdu pas mal en autonomie ces dernières années. Malgré tout ça, en fait, il a réussi à faire des études brillantes, hein, puisqu'il a un master en communication digitale, et il a été embauché par la suite dans une grande entreprise de conseil et d'audit. Il fait de la RH, il est chargé de formation, ça fait 2 ans qu'il est jeune actif, en fait, qui travaille. Et suite à son autonomie financière, c'était posé le problème de son autonomie tout court, quoi. Parce qu'à 25 ans, lui, il avait comme projet de vivre sans ses parents, comme tout jeune actif de son âge. Et malgré tout, Jérémy a quand même besoin d'une aide humaine importante. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider le matin, pour s'habiller, se préparer, se faire à manger. Il a besoin d'une aide humaine en permanence, en fait. Et nous, on avait déjà expérimenté l'aide de jeunes qui vivaient chez nous. C'était des jeunes étudiants étrangers qui venaient passer une année chez nous ou deux et qui lui donnaient un petit coup de main en échange d'être hébergés chez nous. Ça a été le cas avec Adam, qui est un jeune étudiant nigérien qui voulait venir faire ses études STAPS à Paris et qui a passé 2 ans avec nous, et en échange, il lui donnait un petit coup de main au quotidien, quoi. Et ça a été vraiment une grande révélation, parce que c'est vrai qu'on a beau être très proche, mais aller au sport ou aller boire des coups avec ses copains, avec sa mère, oui. C'est pas dans l'ordre des choses. C'est bien plus sympa de le faire avec un jeune de son âge. Et comme on avait cette expérience très positive d'une aide apportée par un jeune du même âge et qui était motivé, on a décidé de mettre en place cette coloc pour permettre à Jérémy de vivre sans nous. En fait, Frédéric et moi, mon mari, on a quitté l'appartement familial qui était assez grand et qui était surtout adapté au handicap de Jérémy. Et il y avait 4 chambres, donc on a trouvé des jeunes valides qui voulaient s'engager auprès de Jérémy en échange d'un loyer très très modéré.
Ok, et du coup Fraternitim, ça a dépassé Jérémy après, du coup?
Alors pour l'instant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a mis ça en place, évidemment, on a fait quelques posts sur les réseaux sociaux et on a eu un retour incroyable, aussi bien du côté de personnes en situation de handicap qui nous disaient: mais attendez, c'est super votre truc, moi je veux faire la même chose. Alors soit pour mes enfants, soit pour moi-même quand c'était des jeunes actifs. Et surtout, de jeunes valides qui disaient: mais moi j'ai envie de donner du sens à ma vie, j'ai envie de m'engager auprès de vous pour ce genre d'organisation, basée sur l'entraide. C'est ça qui est ressorti, en fait, c'était ça. C'était les jeunes valides étaient en quête de sens. Et voilà, et il y avait un besoin de jeunes en situation de handicap qui avaient besoin d'aide humaine, et ça matchait aussitôt, quoi.
Ah, c'est top ça. Et donc du coup là, vous avez combien de fraternis team coloc?
Team coloc. Eh ben c'est bien ça le souci. C'est que pour l'instant on n'en a qu'une, la nôtre. Voilà, parce que elle est financée par nos fonds propres en fait, parce qu'on est propriétaire de notre appartement et que ben, au lieu de percevoir un loyer, on se réjouit d'avoir un demi-loyer, mais qui permet à notre fils d'être autonome en fait. Mais vu la demande, nous on a acquis quand même une certaine expérience, on a acquis un certain savoir-faire. Moi j'ai été institutrice moi pendant 25 ans. Donc pour moi la transmission c'est super important, c'est faire partager, faire voilà, transmettre notre savoir-faire. On sait comment ça peut bien se passer. On sait identifier quel jeune avec qui ça va pouvoir le faire. Donc on veut faire profiter de tout ça à d'autres familles puisqu'on a été sollicité. Mais après voilà, nous on est en cherche de financement après hein, pour avoir d'autres logements pour organiser.
Du coup, on peut faire des dons, j'imagine.
Comment?
On peut vous faire des dons, j'imagine, du coup.
Ah bah oui, avec plaisir. et c'est vrai que voilà, nous on a eu le prix du challenge qui a été organisé par le groupe Apicil. C'était un challenge sur l'inclusion qui récompensait des projets qui permettaient d'avoir une société plus inclusive et nous ça nous a tout de suite parlé parce que c'est un peu ça l'objectif de notre association quoi, parce que ok, il y a le volet coloc et c'est ça qui a séduit le groupe Apicil parce que ça touche à plein de choses, c'est-à-dire ça touche au handicap, mais ça touche aussi à la précarité des étudiants. Il y a plusieurs nationalités dans notre colloque, c'est très sympa, ça brasse des valeurs qui nous sont chères. Mais voilà, après il faut d'autres logements pour continuer cette expérience, quoi.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Tous les moyens sont bons pour sensibiliser à l'environnement et même par le biais de jeux vidéo sur smartphone. On a interviewé Claudie Lombion, fondatrice de Triacaz, qui a notamment conçu l'univers du jeu BB World.
Alors, Triacaz, en deux mots, hein. Donc Triacaz, voilà, j'ai dit deux mots. Triacaz est un terme créole qui veut dire tri à la maison. Donc, nous sommes une entreprise à mission qui a pour objectif d'accompagner la valorisation de la gestion du tri du quotidien. Donc, l'objectif, c'est véritablement d'accompagner les particuliers, les entreprises et collectivités à mieux gérer le tri de leurs déchets au quotidien. Et on s'est appelé Triacaz parce que alors je suis originaire de l'archipel des îles de Guadeloupe, donc c'était aussi un clin d'œil à mon territoire. Et c'est surtout alors que tout commence à la maison. Donc l'apprentissage et la pré-collecte, le bon geste du tri, la bonne information se fait au sein des foyers. Donc ça commence avant, puis le relais de l'école, le relais au travail, etc. et de la collectivité. Donc voilà, donc en deux mots, entreprise à mission qui valorise les déchets du quotidien.
Donc ça, c'est pour la partie donc tri à case, on a bien compris. Et BB World, alors qu'est-ce que c'est BB World?
BB World, donc B pour abeille. En Guadeloupe, il y a une abeille qui s'appelle Exomalopsis marchi, donc c'est un nom un petit peu compliqué, qui est une abeille endémique, de notre territoire, qui a été récemment découverte à la fin des années 90. Et c'est la spécialiste des tout ce qui est poivrons, tomates, etc. C'était une façon pour nous d'expliquer l'impact du geste de l'homme sur la planète. Donc j'ai eu cette idée en découvrant Candy Crush, en fait, et en découvrant aussi le pouvoir addictif de ce type de jeu. Et je me suis posé la question, mais comment sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur l'impact du geste de l'homme et singulièrement de sa pollution, de la pollution des déchets. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un jeu inspiré sur les matchs 3 et singulièrement de Candy Crush en utilisant le vecteur des abeilles, puisque en fait une façon pour moi aussi de sensibiliser monsieur tout le monde, hein, enfin, surtout les enfants, sur l'importance de préserver les pollinisateurs, puisque alors je crois que c'est Einstein, je crois, qui disait que si les abeilles disparaissent, l'humanité aura de mémoire 4 mois, si je ne m'abuse, pour survivre. Donc c'est très très important, en tout cas, que cette chaîne de pollinisateurs soit préservée. Donc c'est une façon pour moi de faire le lien entre la biodiversité de nos territoires, mais singulièrement de notre terre, hein, puisqu'on n'a pas de plan B. Et l'importance de bien trier les déchets, puisque je suis vraiment très engagée depuis une dizaine d'années et puis une vingtaine d'années en tant qu'entrepreneur sur la sensibilisation des publics à l'impact de l'homme sur la planète.
Mais ça fonctionne comment ce jeu BB World? C'est un truc facile? C'est sur téléphone? C'est quoi BB World?
Alors en fait, c'est vraiment un jeu Candy Crush-like. Donc je ne sais pas si vous avez téléchargé. Il est disponible sur Android et sur Apple Store. Donc vous tapez BB World, vous allez tomber là-dessus. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir associer en ligne et en colonne des déchets qui vont dans la même poubelle. Donc là, ce sont des déchets qui sont assez réalistes et qui sont dans des bulles de couleurs. Donc on a sensibilisé sur les déchets de la poubelle jaune, de la poubelle verte, donc déchets en vert, VE2RE, les déchets, tout ce qui est électronique, et les déchets qui vont dans le compostage, dans le composteur. Donc, avec un jeu de code couleur, l'objectif est d'associer qu'au fur et à mesure, on collecte les déchets. Et pour pouvoir passer à un certain niveau, on est obligé d'aller les valoriser. Donc, on a un bouton de valorisation et on est obligé de convertir ce nombre de déchets gagnés en points de valorisation. Et c'est ces points de valorisation qui nous permettent de progresser tout au long des 200 niveaux du jeu.
Et ce jeu BB World a rencontré un vrai succès avec son audience. Mais bon, vous l'aurez compris, en fait, Triacaz, c'est bien plus large que juste BB World.
Effectivement, la startup a certes l'univers du gaming. Donc en fait, notre credo, c'est gamifier l'écologie, voilà, au travers de cet univers. On a un deuxième jeu qui va se lancer bientôt, qui est en train de finaliser, puisqu'en fait, alors je dis quand même deux mots quand même que vous sachiez, même si j'aurai pas trop de temps, mais c'est que c'est plutôt pour votre culture personnelle. Notre entreprise, en fait, est labellisée par le ministère de la Transition écologique. Ce jeu nous a permis d'avoir la labellisation de Green Tech Innovation depuis l'année 2019. Et on a aussi été labellisé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt collecte innovante de Citeo, qui est l'éco-organisme du TRI, de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. Et on est en train de mener une expérimentation sur l'utilisation de notre jeu sur notre territoire, en partenariat avec une agglo locale qui s'appelle la CNGT. Et on va déployer un nouveau jeu qui va intégrer la réalité augmentée. Et l'objectif, ça va être de transformer le trieur du virtuel, hein, comme le premier jeu le fait, en trieur du réel, puisqu'on va pouvoir convertir ces points, non plus en points de valorisation, mais en bons d'achat, qui vont pouvoir être dépensés au travers d'un réseau de commerçants, puisque les personnes vont devoir se rendre à des points, à des checkpoints, pour pouvoir convertir avec des QR codes les points cumulés dans le jeu en bons d'achat. Et donc, à valoir sur une liste de commerçants, des zones dans lesquelles vont se retrouver les différents points de collecte, soit les déchetteries ou soit des bandes de tri. Voilà un petit peu le deuxième jeu de finalisation. Donc, c'est vraiment tout un univers autour du bon geste du tri. Voilà. Donc, plus qu'un jeu, c'est un véritable enjeu qu'on veut démontrer, quoi.
Bonne nuit sur 8FM. Voici votre musique préférée.
Find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know? Is it love? Is it love? Is it love? Tell me, what do you feel in the night? Is it love? Is it love? Is it love?
8 FM.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue. Got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Vous en avez marre de faire du sport tout seul, alors surtout lorsqu'il commence à faire froid et que la nuit tombe plus tôt, on aimerait bien être accompagné.